et s'arrête la jarrette, l'extrême droite. Cet air qui fait fureur au pays des bignoles fait danser les guignols de nos téléviseurs. Pendant que le peuple rigole, l'Assemblée nationale légifère et emballe le délit de sale Gaule. Sur un air de Javoche, la Java la plus moche, elle traîne ses galoches, y'a quelque chose qui cloche. Sur un Roland de Rance, voici le vieille France, elle traîne ses savates, la Java de l'extrême droite. La jeunesse bohème, étudiante et anard, emmerde le FN en fumant des pétards. Mais que d'autres s'activent et posent des gros pétards. L'arrêt pur et pressible leur offre ses comptes placards. Sur un air de Javoche, la Java la plus moche, elle traîne ses galoches, y'a quelque chose qui cloche. Sur un Roland de Rance, gracie de vieille France, elle traîne dans l'air du temps depuis déjà trop longtemps.
Tu cherches des problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours branchés sur le 102.2 d'une radio belle et rebelle, Radio Canu. Et c'est Angle Mort, les Angles Morts avec un S et deux S même qui reprend la parole des émissions en direct. Donc émission de critique sociale et d'expérimentation sociale, mais ça maintenant vous le savez tous. Et bien ce soir, on va être un petit peu musical ce soir surtout. Mais on a quand même préparé quelques petites infos, coups de gueule, rediffuser des choses qui ont été faites. Et donc pour finir de s'installer tout gentiment, à moins que Natacha ait déjà peut-être quelque chose à dire. En plus, si je lui monte pas son micro, non seulement. Donc elle a dit qu'elle n'avait rien à dire, donc c'est pour ça que je remonte pas son micro tout de suite. Et on va donc se lancer pour commencer une chanson de The Proletariat. Quel beau nom. Donc c'est un groupe de punk qui était actif dans les années 80 dans la scène hardcore de Boston aux États-Unis, où il y avait beaucoup de groupes hardcore à Boston à cette époque-là. Et c'est une chanson tirée de l'album This is Boston, not LA, donc c'est Boston et non pas Los Angeles. Et la chanson s'appelle en bon marxiste Religion is the opium of the mass. Donc c'est une chanson qui date de 1982. Et puis on vous lance ça sur Radio Canu, émission Angle Mort.
Mise en parenthèse, je n'y peux pas grand chose. Si nous ne sommes pas en phase, voici mes papiers. Relevez mon adresse et mon place. Et arrêtez de me palper à la moindre occasion. Car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche chemin.
Donc c'était The Proletariat sur Radio Canu avec la chanson Religion is the opium of the mass. Et je laisse la parole maintenant à Natacha qui va nous présenter, parler.
Voilà.
Et dans le micro.
Est-ce que t'as monté le micro, Eric ?
Ça y est, on t'entend.
Ah, tout de même. J'ai bien vu que t'essayais de me museler.
C'est ça.
Mais non, ça marche pas. Oui, du coup. de quoi qu'on cause. Ah oui, donc dans les petites infos locales qu'on avait envie de relayer ce soir, il y avait l'appel à soutien à la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et contre tous les projets inutiles, donc un appel à soutien pour une mobilisation qui se déroule le 22 février, c'est-à-dire samedi prochain, ouais c'est ça, à Lyon. Donc cette info, vous l'avez peut-être déjà lue et vous pouvez la retrouver sur le site d'information alternative lyonnaise Rébellion. Donc samedi prochain, il y aura un rassemblement à Lyon en soutien à la lutte contre l'aéroport, organisée par les collectifs locaux Notre-Dame-des-Landes, du Rhône, Isère, et puis d'une ville de la Loire, je ne sais plus laquelle. Voilà, au même moment, en fait, il y a un rassemblement prévu à Nantes devant la préfecture à 13h. Mais voilà, Nantes, c'est loin, donc pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas s'y rendre, vous avez rendez-vous le 22. Alors au menu de la journée, il y aura à partir de 10h30 place Bellecour des stands, prise de parole en opposition au projet, etc. À partir de 14h, quelque chose qui est intitulé déambulation à pied ou à vélo. Donc voilà, et c'est important de le préciser. Et à partir de 18h, une soirée festive à Dessine ta résistance. Bon, toutes les coordonnées sont précisées sur l'appel que vous retrouvez donc sur le site Rébellion. C'est donc une journée qui sera en soutien aux opposants à l'aéroport, mais également, je le disais tout à l'heure, une journée pour dénoncer tous les grands projets inutiles, destructeurs et coûteux pour la collectivité. Et en Rhône-Alpes, on en a quelques-uns.
On
a notamment le projet de TGV Lyon-Turin, qui est un grand projet inutile. Voilà.
Il se pose là.
Voilà, il y a aussi le projet de la 45, il y a aussi l'exploration du sol pour les gaz de le schiste, et puis on a aussi notre projet pharaonique qu'on doit au président de l'Olympique Lyonnais, de deuxième grand stade géant, projet qui s'appelle ou OL Land, Olympique Lyonnais Land, ou Grand Stade, ou parfois même Stade des Lumières. Alors après, je ne sais pas quelle est l'appellation officielle.
J'avais pas entendu celui-là.
Stade des Lumières, tu ne connaissais pas?
Non, c'est mignon.
Si, voilà. Et puis du coup, je profite de l'occasion que m'offre cet appel à mobilisation du 22 février pour redire deux mots sur le projet de Grand Stade, ou Stade des Lumières, ou OL Land. Et de rappeler qu'il est encore temps de stopper ce projet-là. Il y a toujours des associations qui se mobilisent et des collectifs qui se mobilisent pour ce faire. Voilà, pour mémoire, donc c'est ce projet de deuxième grand stade de foot géant à Lyon qui viendra satisfaire les folies de grandeur du président ultralibéral du club de foot de l'Olympique Lyonnais, qui veut faire entrer l'Olympique Lyonnais en bourse.
Dont le nom est
Jean-Michel Aulas. Ah. T'as vu, hein, je suis calé en foot quand même. C'est un scandale, vous le savez peut-être. C'est un projet inutile et nuisible. Il y a de nombreux recours juridiques qui sont encore en cours. Et puis, comme à Notre-Dame-des-Landes, ce sont les impacts écologiques, le coût pour le contribuable de ce projet-là, et puis plus globalement le déni de démocratie que représente ce chantier qui sont à dénoncer. Alors, pour qui a envie de s'informer, de s'outiller sur la question, il y a notamment deux sites qu'on peut signaler, deux sites d'information qu'on doit à des collectifs mobilisés depuis plusieurs années, même maintenant, et qui tiennent à jour des informations, qui organisent des réunions d'information, des manifs. On peut aussi trouver sur ces deux sites, je crois, des dossiers d'information assez complets sur le projet. Donc c'est notamment le site Légone pour Gerland et le site de l'association Carton Rouge. Et puis récemment aussi, il y a un film documentaire qui est sorti qu'on doit à un certain Marc Chinal. Son documentaire qui fait une cinquantaine de minutes s'appelle « Corrompu, Grand Stade OL Land, syndrome de notre société ». Qu'on retrouve sur le site des éditions qui ont, je pense que c'est les siennes d'ailleurs, ces éditions, RJTP, ça doit être Réfléchir n'a jamais tué personne, je crois que c'est ça que ça veut dire. Et donc le site, on peut le regarder librement sur le site des éditions RJTP. C'est un film qui est intéressant, qui est un film à voir, parce qu'il permet vraiment de comprendre de quoi il retourne et aborde les différents aspects du problème OL Land. Alors à la fois Je disais tout à l'heure que c'est on a un cas d'école de déni de démocratie, mais c'est vrai que le film montre bien comme comment notre système politique est malade, hein, puisqu'on voit une concertation publique inexistante. Il y a, par exemple, il y a quelques années, il y avait déjà une demande de référendum portée par l'association Carton Rouge à Décines qui avait été refusée. On voit comment est organisée l'absence ou le manque d'informations criant des populations locales pour qu'elles s'intéressent pas trop au projet. Que plus globalement, enfin que non pas plus globalement, mais que par ailleurs, il n'y a pas de débat complet et contradictoire dans les assemblées locales des collectivités locales concernées, pas de discussion possible sur ce sujet-là, c'est une sorte d'omerta, c'est un projet qui est souhaité par le président du Grand Lyon et par le maire de Lyon, qui est...
Gérard
Gérard Collomb, c'était un test, Eric, pour voir si tu suivais. Et bon, voilà, l'omerta quand même qui règne, et que rares sont les élus à s'opposer au projet. On voit aussi dans le film bien le coût économique important que représente ce projet-là, avec les dépenses. Ce projet qui était présenté initialement comme un projet ne devant rien coûter aux collectivités locales, et puis qui s'avère. Estimé à un coût de 400 millions d'euros à peu près, quand il aurait suffi, d'après les opposants au projet, de 80 millions. Alors je disais 400 millions d'euros, voilà. C'est le coût auquel est évalué le projet France Stade. Ouais, et quand il aurait suffi, entre guillemets, je dis suffit parce que ça fait quand même aussi des sommes, de 80 millions d'euros pour la rénovation du stade de Gerland.
Ouais.
Qui n'apportait que 3000 places en moins. Donc pour 3000 places en plus, on a plus 80 millions, mais 400 millions. Quoi.
D'accord. Mais il faut voir grand.
Et bon, on voit en fait que tout. Enfin, qu'on essaye de nous convaincre qu'on a besoin de ce nouveau stade et qu'on ne peut pas rénover Gerland. Or, c'est pas vrai. Et le film documentaire démontre bien les arguments et montre bien comment ce projet est réellement inutile. Et il faudrait d'ailleurs, pour qu'il soit rempli, que. Alors, je ne suis pas spécialiste des coupes de football, mais que l'Olympique lyonnais joue en Ligue des Champions, un truc comme ça, pour qu'il puisse être rempli. Non, c'est possible.
Ah, d'accord, oui.
Okay. Enfin, dans les coupes des grands.
Il faut qu'il soit effectivement dans les coupes d'Europe régulièrement pour que ça attire suffisamment de monde, parce que s'il joue juste en. Donc, championnat de France, effectivement, c'est possible que ça attire pas suffisamment pour le rentabiliser. Quoi.
Donc, a priori, on voit les résultats de l'équipe en ce moment, a priori.
Disons qu'ils ont intérêt à y arriver, sinon c'est voilà.
Donc,
il ne fout pas la pression d'ailleurs sur les joueurs. Est-ce qu'il fait pas. Déjà, on se dit pas que le ce type de jeu est un peu vicié dès le départ. C'est-à-dire que, il y a des tels enjeux économiques qu'on peut se douter que dans tous les cas, ils vont trouver les financements pour avoir les meilleurs joueurs possibles pour quand même arriver à faire de Lyon le grand club, en fait.
Je suis pas du tout spécialiste du sujet, ce que montre le documentaire, c'est que finalement, c'est même pas un projet sportif, c'est avant tout un projet financier et économique. C'est-à-dire que derrière l'achat du terrain, il y a aussi tout un projet immobilier qui va rapporter beaucoup à des groupes liés au groupe OL, et que en fait c'est une opération financière, quoi, avant toute chose, quoi, et que ça peut très bien planter le club. D'ailleurs, ça le plante en ce moment parce qu'ils ont vendu a priori des joueurs importants. Vraiment, je connais pas le truc, mais ils ont a priori vendu des joueurs qui jouaient, pour pouvoir financer ce projet de stade. Alors, à un moment donné, on aura peut-être un beau stade, mais il sera vide. Et puis la dernière partie du documentaire s'intéresse, c'est aussi intéressant, aux impacts écologiques, à la fois en termes de pollution à prévoir, parce que c'est un projet qui va amener à ce que les gens utilisent la voiture beaucoup plus qu'actuellement pour le stade de Gerland, qui est bien relié par le métro. Et puis comment s'entraîne aussi l'expropriation de paysans, des espèces rares qui se trouvent menacées, et plus globalement aussi le recul des terres agricoles et naturelles sur le territoire. Et du coup, il finit aussi sur une sorte de critique de l'impasse capitaliste que représente ce type de projet. Alors, dans les outils d'information intéressants, on peut aussi signaler un documentaire radio assez décapant, et drôle aussi, qu'on doit à deux personnes, Jean-Baptiste Fribourg et Olivier Minot, qui s'appelle à ce stade Lyon ne répond plus, et qui était lui, ce documentaire qui a été produit pour Arte Radio et qu'on retrouve sur le site d'Arte Radio. Voilà. Et si vous vraiment, alors vous n'avez pas le temps de regarder des documentaires d'une cinquantaine de minutes, il y a une petite vidéo sympa qui a été réalisée en mettant en scène Guignol, la marionnette lyonnaise bien connue, et qui propose en 4-5 minutes un petit décryptage critique du projet où on a, voilà, on a une vision globale des chiffres clés, des impacts économiques du projet, de comment on va servir les intérêts privés à travers ce projet-là. Donc une petite vidéo qui s'appelle Guignol et le deuxième stade géant de Lyon au Elland et qu'on peut voir à partir du site des Gaunes pour Gerland.
D'accord, alors peut-être tu peux rappeler le nom du premier documentaire dont tu as parlé.
Mais je peux, bien sûr, ça, Eric. Ça te paraît utile?
Oui, ça me paraît utile.
Le tout premier, celui dont j'ai le plus parlé, qui s'appelle... Corrompu. Voilà, Corrompu, grand stade Hoëlland, syndrome de notre société. Et qu'on retrouve sur le site des éditions RJTP pour... Je ne sais plus ce que ça veut dire, RJTP. Je l'ai dit tout à l'heure.
Ça tue
réfléchir n'a jamais tué personne, ouais. Voilà. C'est ça.
Et toi d'un coup d'un seul, tu étrangles le murmure d'une pensée dissidente, d'une utopie qui nous tente. Ta démagogie méchante n'aime pas que l'on chante. Tu rêves d'une ville prestigieuse et rayonnante, un musée tranquille où jamais on ne parle mente. Ton sens de la fête se résume au m'as-tu vu, imposé d'en haut, pas de place pour l'imprévu. Tu rêves d'un Disneyland où ta propagande serait la seule respiration de toute une population. Une ville qui se vende selon l'offre et la demande, qui regorge de légendes mais qui ne veut pas nous entendre. Et depuis que Colomb a découvert l'Amérique, il est bourré de méthodes, miracles magiques. À Lyon comme à New York, les rues sont cafés de flics et des caméras surveillent la voie publique. Pourtant, lorsque Colomb avait découvert la mairie de Lyon, on avait presque souri. On se disait que la gauche ne serait pas pire que la droite, mais on avait bien tort car cette gauche est très à droite. Pour enfourcher sans mystère la parano sécuritaire et du même coup faire taire tout idée contestataire, déclencher des tonnerres en accueillant des tensionnaires, mais dire que pour les affaires il ne faut pas faire de manière. Colomb, Berlus, Colomb, sur que tu forces l'admiration des fachos de tout poil, des électeurs de millions. Ils se souviendront de toi aux prochaines élections. Économie, sécurité sont aussi leurs conversations. Surtout ne lâche pas, tu as trouvé le bon filon. Tu es dans l'air du temps et tes actes en disent long. Gérard, écoute bien, elle est pour toi cette chanson. La ville que tu prépares est loin de nos inspirations. Une ville supermarché, une ville en papier mâché que tu entends diriger et d'une main de PDG. Sans vouloir te bâcher, elle ne fait que nous fâcher. Alors Gérard, par pitié, décolonise nos quartiers. De Lyon, entre Colonnes et Vermont, entre Perbet et Colomb, la ville de Lyon, on attend le...
vous venez d'écouter la chanson La Scottish à Colomb du groupe Bistanclac, donc une chanson hommage à notre maire
Gégé.
Eh oui, Gérard Colomb et maire de Lyon et président du Grand Lyon. Une chanson qui dit dans son dernier couplet: Gérard, écoute bien, elle est pour toi cette chanson, la ville que tu nous prépares est loin de nos aspirations. Donc voilà, donc on doit au groupe Bistanclac qui n'existe plus, je crois. Hein.
Le groupe lui-même, oui, effectivement, ouais. Je ne suis pas sûr. Mmh. Mais Renaud Bistan a son. C'est le fameux Bal à Bistan qui
oui,
fait encore
qui
beaucoup
continue
de
tourner.
De concerts.
Ouais. Mmh. Donc un groupe lyonnais, un groupe de la Croix-Rousse. Enfin, je ne sais pas s'ils sont implantés dans la Croix-Rousse, mais ils écrivaient pas mal sur ce quartier. Et puis, donc, sur l'album, intitulé Longtemps, nous nous sommes couchés tard, qui date de 2004.
Bien, merci pour toutes ces informations. Eh bien, je vais poursuivre en ce qui me concerne avec la lecture d'un article que j'ai trouvé vraiment très intéressant et puis qui permet de rentrer un petit peu dans les coulisses de nos médias. Donc, un article publié sur le site Les Mots sont, enfin sur le site internet Les Mots sont importants. L'adresse va être lmsi.net. Qu'on doit à François Altreyou et Pierre Thévagnan. Et qui s'intitule l'article « Le pujadisme est-il un pluralisme ?» Donc pujadisme, à ne pas confondre avec le poujadisme, puisqu'il est bien question de Pujadas, le présentateur du journal télévisé de France 2. Et le sous-titre de l'article est « Quand France 2 souche reçoit l'extrême droite plurielle ». Et je vais le lire parce qu'il est vraiment très bien fait, je trouve. Donc chaque début d'année, c'est la même histoire. À la fin du mois de janvier, ou au début du mois de février, le ministre de l'Intérieur en place est amené à rendre compte dans les médias des statistiques de la délinquance de l'année écoulée. On ne reviendra pas ici sur ce que ces statistiques ont de bidon. Enfin,
on pourrait revenir.
Voilà, on pourrait. En gros, elles enregistrent essentiellement l'activité policière, mais non pas vraiment ce qu'on pourrait appeler la délinquance. Et les plaintes, elles enregistrent aussi, surtout. Donc, le 6 février dernier, Manuel Valls était donc l'invité de David Pujadas dans l'émission politique mensuelle de France 2, Des paroles et des actes, afin d'y évoquer, pêle-mêle, son bilan de l'année 2013, sa cote de popularité, le problème de l'immigration, l'affaire Dieudonné, le modèle d'intégration à la française, ses ambitions, etc. Et tout ceci, nous allons le voir, en très très bonne compagnie. Donc l'émission se déroule en quatre parties. Une première concernant son bilan contre l'insécurité, durant laquelle Manuel Valls fait face à, on devrait plutôt dire fait front avec, Xavier Roffert, ou Roffet, je vous avoue que je sais pas comment on dit, Samira Guérouge et Éric Ciotti. On reviendra plus tard sur qui sont ces personnages. Deuxième partie, enfin en tout cas une partie d'entre eux. Deuxième partie de l'émission est consacrée aux autres questions politiques et économiques, au cours de laquelle il répond aux questions de Nathalie Saint-Cricq et François Langlais. Là aussi on y reviendra. Une troisième partie divisée en deux face-à-face, l'un avec Florian Philippot pour parler d'immigration, donc Florian Philippot qui est le numéro 2 du FN, et l'autre avec Alain Finkielkraut, dit Finky entre nous, pour traiter du modèle d'intégration à la française. Et quatrième partie, destinée à faire le bilan de l'émission grâce à trois examinateurs. Donc, examinateurs entre guillemets bien évidemment, qui sont Franz-Olivier Gisbert, Alba Ventura et Jeff Wintenberg. Bref, bon, à regarder pour ceux qui connaissent un peu ces noms, même de loin, le panel des invités et intervenants de l'émission, on se dit que France 2 a tout de même une singulière conception du débat public et du pluralisme. Bon, en effet, d'abord, notons que bon, pour débattre avec Manuel Valls, France 2 qui... Déjà, durant le mandat de Jacques Chirac et jusqu'à l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002, était devenue championne toute catégorie en termes d'émissions consacrées à l'insécurité, n'a visiblement pas été chercher ses invités au-delà de son carnet d'adresses habituel. Le plateau du 6 février de Des paroles et des actes est assez remarquable pour son homogénéité, puisqu'il regroupe autour du ministère de l'Intérieur 6 journalistes haut placés, à savoir donc David Pujadas, qui était d'abord reporter sur TF1, puis est le présentateur du JT de France 2. Nathalie Saint-Cricq, je l'ai dit tout à l'heure, qui est, elle, rédactrice en chef des émissions, puis responsable du service politique de France 2. François Langlais, qui est éditorialiste au Point, rédacteur en chef du service France de France 2. Franz-Olivier Gisbert, qui est directeur du Point. Alba Ventura, qui est... encore récemment chef du service politique de RTL, et Jeff Wintenberg, ex-présentateur des 4 vérités, chroniqueur sur France 2. Donc c'est quand même plutôt le gratin des médias dominants. À
de
cela
droite.
S'ajoute... Pardon ?
De droite.
De droite. C'est clair. Et c'est un peu le propos de l'article, justement. Donc à cela s'ajoutent deux professionnels de la politique, à savoir Éric Ciotti, député UMP des Alpes-Maritimes.
De droite.
Florian Philippot, vice-président du Front National.
D'extrême droite. Voilà.
Deux représentants des professions intellectuelles, entre guillemets, donc Alain Finkielkraut.
De droite. Voilà. Non, d'extrême droite.
Voilà, plutôt. Donc, qui se qualifie lui-même, hein, ou qui est qualifié parfois par des gens de complaisance de philosophe. Et Xavier Roffert. Journaliste de droite aussi, je crois, hein, usurpateur de titres académiques et qui donne des cours à l'université Paris 2. On y reviendra sur son cas plus en avant. Et enfin, on a au milieu de tout ça, une militante associative et adjointe au maire PS de Clichy-sous-Bois, qui est Samira Guérouge, qui est en fait la seule sur le plateau à exprimer quelques réserves à propos du travail de la police en abordant la question des humiliations et du harcèlement sexuel lors des contrôles. Donc, où sont les femmes? Bah voilà, elles sont là, il y a 3 femmes pour 8 hommes. Et les 3 femmes sont dans des rôles, des seconds rôles, évidemment. Brillent également par leur absence, comme dans la quasi-totalité des émissions sur le sujet, bah, toutes les personnes qui auraient pourtant eu beaucoup à dire du bilan de Manuel Valls en matière de sécurité et de politique d'immigration, à savoir les représentantes et représentants d'institutions sociales, culturelles ou médicales, les représentantes et représentants de l'éducation nationale et de la protection judiciaire de la jeunesse, les sociologues, on peut penser par exemple à Laurent Mukieli qui est absent, Laurent Bonelli aussi qui est absent, les magistrates et magistrats antisécuritaires comme Gilles Senati et Ulrich Schalchi qui sont aussi absents. Les militantes et militants politiques ou associatifs, on n'aura pas de représentants de la LDH, ni du GISTI, ni de Rome Europe, ni de la Voix des Roms, ni de collectifs sans papier, collectifs antiracistes, etc. Sont absents aussi les collectifs des familles de victimes de crimes policiers ou tout simplement toute personne qui a eu affaire à la police ou à la justice. Encore que c'est pas tout à fait vrai du coup, parce que je crois que dans la liste qu'on a dit tout à l'heure, il y en a quelques-uns qui ont eu affaire à la justice. Mais là, j'ai plus exactement la liste en tête, mais bon, bref. Tout cela n'est pas nouveau. Pierre Bourdieu, par exemple, a naguère bien expliqué. Tous issus peu ou prou des mêmes formations professionnelles. IEP de Paris, CFJ, donc c'est le centre de formation des journalistes, HEC, ENA. Fréquentant également les mêmes milieux sociaux, notons que Xavier Roffert coécrit des livres avec Alain Bauer, qui est lui-même le parrain des enfants de Manuel Valls, nous y reviendrons. Donc, tous issus peu ou prou de ce même milieu, nos débatteurs professionnels partagent les mêmes principes de vision et de division du monde social, qui sont ici ceux de la droite et de l'extrême droite réactionnaire, raciste, islamophobe, anti-rome. Tant et si bien qu'en monopolisant la parole publique, ils se font, en même temps que les agents du maintien de l'ordre social, les maîtres et gardiens de la hiérarchie des discours légitimes. Par exemple, en l'occurrence, des discours sur la délinquance et l'immigration. Les orientations idéologiques de cette émission passent d'autant plus facilement pour légitimes que cette dernière prend les oripeaux d'un processus délibératif, délivrant une vérité objective, entre guillemets, qui n'est en fait en réalité que l'expression de l'ethnocentrisme de ses intervenants. Des paroles et des actes qui se présentent donc comme une émission de débat public, de confrontation des idées, ignorent en fait toute forme de pluralisme, ou du moins tout pluralisme autre que formel. Or, si la pluralité dans la sélection des débattants ne suffit pas à garantir à un débat public son caractère démocratique, c'est en tout cas une condition quand même nécessaire, c'est le minimum. Et ce manque de pluralisme, cette homogénéité du plateau, n'est en l'occurrence pas seulement sociale, mais aussi, nous allons voir, idéologique. Donc j'en viens à la deuxième partie de ce très intéressant article, Vie, doctrine et sentence des doxosophes infâmes.
Des quoi ?
Doxosophes. Donc ça c'était une expression de Pierre Bourdieu pour en gros tous ces gens qui trustent les positions dans les médias pour parler, dire ce que le peuple dit. Donc parler au nom du peuple. Ça vient de doxa. La doxa,
ouais,
c'est
la doxa,
le sens commun. Et c'est le doxosophe.
Ok, merci.
Donc qui sont ces personnages idéologiquement parlant? Donc le panorama qui suit n'est pas bien sûr exhaustif, mais il suffit à donner un aperçu de la quantité de fascisme qui a pu se déverser dans une causerie rassemblant de manière troublante toutes les tendances ou presque de la grande famille d'extrême droite, puisqu'on va trouver l'extrême droite classique qui émarge toujours au FN, l'extrême droite de gouvernement qui émarge à l'UMP, l'extrême droite journalistique recyclée à l'Express, l'extrême droite littéraire qui grenouille entre Gallimard et France Culture, semble oublier l'invité vedette, Manuel White, qui représente bel et bien quelque chose comme une extrême droite de gauche, entre guillemets. Donc, Xavier Roffert, qui c'est? De son vrai nom, Christian de Bonguin,
Ancien militant au sein du mouvement d'extrême droite Occident, dissous en 1968, il rejoint ensuite le Conseil national de l'organisation qui remplace Occident, à savoir Ordre Nouveau. Idéologue de la nouvelle droite, ce n'est qu'en 1979 qu'il prend le pseudonyme de Xavier Roffer lorsqu'il décide de devenir journaliste à l'Express et de se spécialiser dans la criminologie et l'antiterrorisme. Et il devient, donc l'article dit, grâce à ses réseaux d'extrême droite, directeur de collection aux presses universitaires de France, les PUF, où il signe un ouvrage avec Alain Bauer, dont on entend souvent parler, ouvrage intitulé « Violence et insécurité urbaine ». Donc ses thèses reposent sur l'idée quasi orwellienne selon laquelle la délinquance découlerait d'une multiplication des occasions de délinquance. Lutter contre la délinquance consisterait donc non pas à lutter contre les inégalités sociales, la pauvreté, le chômage, le racisme, et pas davantage contre la fraude fiscale, le détournement de fonds, la corruption, les abus de biens sociaux, le trafic d'influence, les infractions au code du travail. Non, ça on s'en fout, c'est pas de la délinquance ça en fait. Donc lui, lutter contre la délinquance, ça revient à renforcer les sanctions et les contrôles afin de faire augmenter les coûts de la délinquance. Donc dans l'idée un peu simple que si on est délinquant, c'est qu'on y tire des avantages et que si on augmente les coûts, et bah du coup il y aura moins de délinquants. Sa critique des politiques sécuritaires actuelles vise à ouvrir massivement le domaine de la sécurité au secteur privé. Bah oui, bah y a de l'argent à se faire. Roffer dénonce donc la lourdeur, le laxisme et le corporatisme des services de l'État. Véritable marchand de peur, Bauer, donc avec qui il écrit Alain Bauer, et Roffer cherchent en somme à vendre leur expertise en dramatisant les questions de sécurité, en attirant l'attention sur les illégalismes populaires et en faisant de ceux-ci des menaces, souvent qualifiées de, et là c'est une expression de terrorisme de basse intensité. Voilà donc pour le premier Xavier Roffer.
Ah, il est sympa.
Ouais, il est bien lui, hein. Le deuxième, Éric Ciotti, diplômé de Sciences Po Paris. Il fut directeur de cabinet de Christian Estrosi, ancien ministre donc de Nicolas Sarkozy, avant de devenir député UMP dans la première circonscription des Alpes-Maritimes et président du conseil général du même département. Monsieur Sécurité de l'UMP, il est aussi le rédacteur de projets de loi tous plus délirants et brutaux, les uns que les autres. Certains d'entre eux sont pourtant adoptés, comme celui destiné à lutter contre l'absentéisme scolaire en suspendant ou en supprimant les allocations familiales, ou encore celui instaurant un encadrement militaire pour les mineurs délinquants. En mars 2013, dans le droit fil des réclamations de Manuel Valls, il dépose une proposition de loi visant à étendre le principe de neutralité religieuse, c'est-à-dire en fait le principe de discrimination des femmes voilées, étendre ce principe aux entreprises privées suite à l'affaire de la crèche Babylou. La proposition de loi sera heureusement rejetée. En 2013, il s'illustre aussi en fondant avec Christian Estrosi un comité de soutien aux bijoutiers de Nice. Le commerçant avait tué le braqueur de son magasin sans être dans une situation de légitime défense. Christian Estrosi avait alors déposé une proposition de loi définissant les conditions d'une présomption de légitime défense et d'un excès de légitime défense sans responsabilité pénale. En d'autres termes, un permis de tuer. Donc dans des paroles et des actes, il ne critique pas tant les politiques de Manuel Valls, dont il approuve les discours très fermes contre la délinquance et contre l'immigration, mais il critique plutôt, la pression idéologique d'une majorité qui n'a pas fait sa révolution sur la sécurité. Il s'en prend à, toujours ses mots, la culture de l'impunité dans la justice, reprochant à la France de ne pas prendre exemple sur les États-Unis. 8 fois plus de prisonniers, assène-t-il, admiratif. Pourtant, en France, les prisons sont plus que pleines, hein, et les conditions de vie sont inacceptables, comme le rappelle sur son blog, pas sur le plateau de l'émission, parce que là, il n'avait pas accès à l'émission, comme le rappelle le magistrat Gilles Senati, qui dit 77 883 personnes sous écrou, soit plus 1,4% en plus en un an, en janvier 2014, en France, dont 67 000 environ incarcérés sur 57 000 places disponibles, ce qui représente une hausse de 1% par rapport au mois de janvier 2013, et 10 000 personnes placées sous surveillance électronique. Voilà, bon, ça c'était pour Éric Ciotti. Venons-en maintenant à Florian Philippot, ça va être plus rapide. Donc numéro du FN, passé par HEC, puis Sciences Po Paris et l'ENA, parce qu'on sait bien que ces gens incarnent les intérêts des classes populaires. Hein, et... D'ailleurs, il faut regarder aussi, souvent on trouve des images des petites fêtes qu'organisent les jeunes du FN. Là aussi, on sent que ça incarne vraiment les milieux populaires. Là, on est en plein dans les milieux populaires. Eh bien non, pas du tout. Ce Florian Philippot est passé par HEC, puis Sciences Po Paris et l'ENA, haut fonctionnaire proche de l'extrême droite pendant plusieurs années. Il ne rejoint pourtant le Front National qu'en 2008 et il en devient par la suite le porte-parole et le vice-président. Donc dans son face-à-face, le mot n'est pas trop dur, avec Manuel Valls à Des paroles et des actes, il commence par souligner, comme tous les autres, combien il est souvent d'accord avec le ministre de l'Intérieur socialiste, tout en lui reprochant de ne pas appliquer rigoureusement ce qu'il dit. Le débat atteindra son paroxysme d'absurdité lorsque les deux débattants se taxeront l'un l'autre, et dans les deux cas à juste titre, de racistes. Avant de s'entendre peu ou prou tous les deux sur l'idée que, pour régler efficacement le « problème de l'immigration », entre guillemets, il faudrait se méfier du système de sécurité sociale français. On avait connu des face-à-face au cours desquels les adversaires étaient moins conciliants quand même. Allez, autre personnage, Alain Finkielkraut, celui-là je l'aime bien. Déjà considéré il y a près de 20 ans par Pierre Bourdieu comme l'archétype du fast thinker, aussi omniprésent médiatiquement qu'incompétent scientifiquement, littérairement et philosophiquement. Alain Finkielkraut n'a pas cessé depuis deux décennies de squatter tout ce qui, sur les ondes radio, la télé hertzienne ou le câble, ressemble à un média mainstream, jusqu'en dans des émissions jugées hétérodoxes et hérétiques par certains comme celle de Tadei, Ce soir ou jamais, où il a jusqu'à présent été invité plus d'une quinzaine de fois. Si l'on s'en tient aux 15 dernières années, Alain Finkielkraut s'est distingué en apportant son soutien aux écrits anti-juifs et anti-immigrés de l'écrivain Renaud Camus, puis en faisant l'éloge d'un pamphlet islamophobe publié par Oriana Fallaci, selon lequel les musulmans ne sont bons qu'à lever le cul en l'air 5 fois par jour et à se multiplier comme des rats, donc là bien sûr faut mettre des guillemets à tout ça, puisque c'est les propos de Oriana Fallaci, soutenu par Alain Finkielkraut. Donc il avait expliqué à propos de ses propos que l'auteur avait l'insigne mérite de regarder la réalité en face. Après avoir déclaré en 2002 que c'était la réalité qui avait fait la campagne pour Le Pen, il a accusé l'extrême gauche et les jeunes de banlieue, entre guillemets, arabes ou musulmans, d'être les principaux vecteurs de l'antisémitisme. Fervent militant de l'exclusion des écolières portant le voile kéfier, c'est son terme, il s'est aussi illustré en ironisant sur, citation, les victimes anti-IS de l'esclavage qui vivent aujourd'hui de l'assistance de la métropole, en dénonçant le caractère ethnico-religieux des émeutes urbaines, en célébrant les bons côtés de la colonisation, de l'esclavage et d'une France qui n'aurait fait que du bien aux Africains, et en critiquant enfin une équipe de football black qui serait la risée de l'Europe. Donc il est aussi antiféministe acharné et s'est illustré dans le soutien à certains types d'hommes, à savoir Roman Polanski et Dominique Strauss-Kahn. Donc un type particulier d'homme quand même. Devenu puisqu'ils ont tous les deux été pris pour des raisons de viol. Devenu proche ami de Renaud Camus, lui-même reconverti dans l'animation d'un groupuscule nommé le Parti de l'Innocence et rallié officiellement à Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle, Alain Finkielkraut a participé à une soirée du dit Parti de l'Innocence en compagnie notamment d'Elisabeth Lévy, qu'on ne présente plus, mais bon, moi ça, j'avoue que je la connais pas, donc mais c'est, là je lis l'article. Et puis d'autres types du même genre, tous responsables du Front National. Pierre Sautarel aussi, animateur du plus important des sites internet d'extrême droite islamophobe, François de Souche. Sans oublier Pierre Cassène et Christine Tassin, animateurs d'un groupuscule islamophobe radical nommé Riposte Laïque. Donc Christine Tassin a notamment rédigé un projet politique où elle envisage, au sens littéral et sans métaphore, de tirer dans le tas des musulmans. Pour dire qu'on est encore en bonne compagnie. Donc dans des paroles et des actes, le philosophe réactionnaire a ressorti son couplet désormais bien connu sur le refus d'intégration des jeunes générations issues de l'immigration, sur l'abominable voile et sur les territoires perdus de la République. Il a dénoncé ce qu'il appelle l'Union soviétique de l'antiracisme sans cervelle. Et récusé par avance toute idée de refonte des programmes d'histoire intégrant ceux qui, dominant leur temps, en ont jusqu'à présent été effacés. C'est-à-dire que lui, il va se battre contre l'intégration de figures anticolonialistes, de femmes, etc. dans les programmes d'histoire. Manuel Valls, de son côté, a rappelé combien il se... Donc c'est Manuel Valls qui dit, il se retrouve dans les propos, la pensée, les réflexions, les écrits d'Alain Finkielkraut, quand il défend la laïcité, la lutte contre les fondamentalismes, les communautarismes, et au fond quand il pointe l'existence d'une panne dans notre système d'intégration. Mais c'est avec ce véritable coup de grâce que le face-à-face atteint sa plus haute intensité émotionnelle. Donc Manuel Valls dit, ce que je ressens parfois en écoutant Alain Finkielkraut, c'est que, bon, puis-je le dire, il va se fâcher, il y a parfois une absence de confiance dans notre pays. Voilà qui est envoyé. Ça, on a vraiment un face-à-face avec un mec de gauche et voilà. Donc bilan du débat, tous les intervenants saluent, sans bien sûr le nommer ainsi, le travail de l'eupénisation des esprits accompli par Manuel Valls, ses propos racistes, sa violence envers les Roms, son occultation des violences policières, son islamophobie, ainsi que la continuité de ses politiques anti-migratoires avec celles de ses prédécesseurs, Hortefeux, Guéant, Besson, Alliot-Marie, etc. À peine lui est-il reproché de n'être pas assez lui-même, d'aller dans la bonne direction mais pas assez loin. Ne manque plus que le verdict des trois examinateurs entre guillemets de la fin de l'émission pour nous dire ce qu'il fallait voir dans ce que nous avons vu et ce qu'il fallait entendre dans ce que nous avons entendu. Sans oublier le plus important, ce qu'il faut en penser. Donc, sans bouleversante surprise, ces examinateurs, avec eux, on apprend que Manuel Valls a été bon, mais aussi pugnace, modeste et combatif, et qu'il a réalisé une bonne émission. Générique de fin. L'esprit bien lepénisé, le téléspectateur n'a plus qu'à se répéter s'il veut s'en convaincre. Le tout récent slogan de la chaîne de service public, France 2, c'est bien.
Oh, yo pas travailler la lune, parce que comme errant autour du top. Oh, yo pas travailler la lune.
Croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
contre tout l'enfer,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières,
au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères.
Pardon pour ce petit raté technique, on se lance une petite pause musicale tout de suite.
The people are wait now, incarcerate, good, penetrate, blow. Knock down the fence, bring sound effects loud. Pick up a crowd with a vow not to bow down. To predicament, implemented on the innocent with intent evident to better the plight. Strike by a government impotent to ever see in the light. Interested only in money that's feeding the right. Wing of a vulture culture killing them too. Only one you'll ever see now is in the zoo. With the nature of man seeming damned to follow suit. Tell me how long do them come to cage you? You.
Refugee.
It's weird, disappeared without a trace. It is clear, the fear in their eyes, saying their goodbyes. On the boat, watch it float away. Destiny foreign, they just stay captive, active. Fight for survival, illegal arrival. They say go back to where you come from. Face the barrel of a gun, running over razor wire fences. Up the pretenses, defences of the white Australia policy. Let's see the idiocy behind the media. Minister of Immigration, masturbation of Rolex rhetoric, a rubbish published, bullshit in the media, fake photos to tease your home. You starve alone as lips are sewn together. Starve alone behind bars, thinking no one knows where you are. Port Hedland to Woomera.
My name is Montazir.
What do you think of your experience in the Woomera detention centre?
It is very horrible for children and families, for single men also, and there is no education and activities. And everyone get crazy there. Because of that we escaped. We was very tired and very fed up of the fences everywhere, from SEM, Dima. 3 times I kill myself by razor, and 2 times I suicide me. Then they took me. They was throwing in the camp, so everyone get crazy. Eyes was not working and we cannot breathe. And children and little boys, the smoke go in the eyes, and when they breathe, it is very bad for their lungs.
The tear gas containers.
Yes.
Throw it in.
I'm very happy to be free. I want to go to school, read and learn English. In Kemi, we didn't learn English. We learned too many bad things. We learned how to guard themselves, how to drink shampoo, how to suicide. This, and when we get out of, now we are free. Now we are free. Now we are free. Now we are free.
We'll be right back.
PUG.
I'm an alien, I'm a little alien. Refugee from Woomera.
Refugee.
I'm an alien, I'm a white Australian. Fake person from afar.
Refugee.
We're all aliens from a million nations, ripping down the fence at Woomera.
Allez, toujours à l'écoute de 102.2 Radio Canu, émission Angle Mort. Le titre qui passait à l'instant, bien c'était une chanson du groupe de hip-hop australien Comba Wamba, qui s'appelle la chanson Radio Woomera Part 2, et qu'on peut retrouver bien sur un album, je crois, qui s'appelle Unsound System. Donc c'est un très très bon groupe de hip-hop, très engagé et vraiment très intéressant, qui font de la très bonne musique. Avant donc le titre, eh bien c'était une lecture, je leur dis, de l'article « Pujadisme est-il un pluralisme qu'en France de souche reçoit l'extrême droite plurielle ?» publié sur le site « Les mots sont importants », lmsi.net, par François Atreyou, pardon. Atreyou comme le... c'est le film là.
Je sais pas de quoi tu parles.
Avec un dragon qui vole. Atreyou. Bon, bref, certains peut-être vous verront.
Oh là là.
Ça revient de loin, ça. Et Pierre Thévanian, voilà. Et bien donc on poursuit avec Natacha.
Ouais, et ben moi je suis un peu emmerdée parce que ce que je voulais vous présenter, mon impression est un peu ratée. Enfin, l'impression que j'ai fait du document est pourrie. Et du coup, j'arrive plus à lire
bon, le titre.
Ouais, alors, en fait, l'idée, c'était de présenter une pétition nationale qui circule depuis quelques jours maintenant, qu'on doit à des enseignants, chercheurs, étudiants de... Alors, à l'origine, je crois qu'elle venait de Strasbourg,
oui, je crois,
l'Université de Strasbourg, puis c'est devenu une pétition nationale relayée par les universités de Lyon, les trois. Université de Lyon, et qu'on... Alors, sous le titre, je dirais éducation, recherche et genre, un truc comme ça, ou... Enfin, je sais plus.
Ouais, il y a quelque chose comme ça, je crois.
Bon, l'idée, c'était de combattre toutes les idées fausses qui circulent actuellement dans ce climat réactionnaire particulièrement nauséabond qui voudrait... faire reculer toutes les avancées possibles en termes d'égalité femmes-hommes, de droits des femmes, de lutte contre le sexisme, etc. Et du coup, donc c'est une pétition dont je mettrai le lien en ligne sur notre blog, comme ça vous retrouverez le titre éventuellement si vous voulez en lire l'appel. Bon, l'idée c'était pas de faire un appel à aller signer cette pétition parce que on sait l'efficacité est relativement limitée quand même des pétitions, et puis voilà, on se fait pas le relais de cette pétition particulièrement. C'est plutôt du coup de lire l'appel qui l'accompagne, qui est plutôt bien écrit et qui a le mérite de rappeler quelques idées simples et simplement, et aussi de dire que ça faisait plaisir puisqu'il y avait déjà plus de 10 000 personnes, je crois, Eric, qui avaient signé effectivement en ligne cet appel.
Ouais, je sais plus où on en est, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, c'est la... Même si on n'appelle pas forcément... Enfin, c'est au moins l'intérêt de ça,
et oui.
de se sentir un peu moins seul face...
C'est ça, ouais, parce que quand on voit défiler dans la rue, les manifs pour tous, les jours de colère et tout ce que tu veux, ben, du coup, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui se mobilisent et puis qui sont prêts à dire ben non, il n'est pas dangereux d'apprendre l'égalité à l'école, ça fait plaisir. Donc je vous livre l'appel du coup. Alors, depuis quelques jours, les élèves et les parents d'élèves sont harcelés de mails et de SMS provenant d'associations extrémistes qui propagent la rumeur selon laquelle, parce que entre guillemets le genre est introduit dans les programmes scolaires, leurs enfants seraient en danger à l'école. Non seulement cette manœuvre de déstabilisation des parents est révoltante, les enfants ont été privés d'école, mais de plus, cette rumeur est totalement mensongère. Depuis plusieurs jours également, les propos les plus extrémistes circulent dans les rues ou sur les réseaux sociaux, réveillant les haines envers les homosexuels, les juifs, les féministes, les professeurs des écoles appliquant l'ABCD de l'égalité, les chercheurs en études sur le genre, toutes et tous présentés comme des ennemis de la société. Face à ces propos miam, dangereux...
Miam.
Ah ça c'est l'ennemi de la société que... voilà. D'accord. Face à ces propos dangereux, face au risque de dérive extrémiste, nous, enseignantes et enseignants, étudiants et étudiantes, chercheurs et chercheuses, chercheurs, chercheuses, souhaitons prendre la parole, rappeler la réalité des pratiques éducatives et scientifiques d'aujourd'hui et appeler au soutien de nos concitoyens et concitoyennes de toutes les régions de France, de toutes les origines, de toutes les cultures. Non, les enfants ne sont pas en danger.
Miam, miam, miam.
Ça fait peur. Non, il n'y aura pas de projection de films entre guillemets sexuels à l'école. Et les garçons ne seront pas transformés en filles, ni inversement. Non, la prétendue, entre guillemets, théorie du genre n'existe pas. Mais oui, et c'est l'idée fondamentale de l'article qui nous semblait intéressant à relayer ce soir, c'est mais oui, les études de genre existent. Le genre est simplement un concept pour penser des réalités objectives. On n'est pas homme ou femme de la même manière au Moyen-Âge et aujourd'hui. On n'est pas homme ou femme de la même manière en Afrique, en Asie, en Europe, dans le monde arabe, en Suède, en France ou en Italie. On n'est pas homme ou femme de la même manière selon que l'on est cadre ou ouvrier. Le genre est un outil que les scientifiques utilisent pour penser et analyser ces différences. Donc oui, les programmes scolaires invitent à réfléchir sur les stéréotypes de sexe, car l'école, le collège, le lycée sont les lieux où les enseignants promeuvent l'égalité et la tolérance, où les enfants apprennent le respect des différences culturelles, sexuelles, religieuses. Eric, il a perdu. C'était le moment où tu as un truc à lire.
J'étais dans mes...
C'est à toi.
Alors, 20 liest die Zeitung in von Zimmer, Mutti ist in der Küche.
Voilà, donc si comme moi vous parlez pas un mot d'allemand, vous n'aurez pas compris ce que vient de dire Eric. Ce que vient de dire Eric, c'est papa lit le journal au salon, maman est à la cuisine. Voilà comment des élèves de collège apprenaient l'allemand à travers les aventures de Rolf et Gisela dans les années 1980. Réfléchir sur le genre, c'est réfléchir sur les effets de ce type de message. Donc oui, l'école est le lieu où l'on permet à chacun, par les cours de français, d'histoire, de SVT, d'éducation civique, d'éducation physique, de réfléchir sur les conséquences néfastes des idées reçues et d'interroger certains préjugés. Ceux qui ont fait que, pendant des siècles, un protestant ne se mariait pas avec une catholique. Ceux qui font que l'on insulte encore aujourd'hui une ministre à cause de sa couleur de peau. Ceux qui font que des petits garçons sont malmenés au cri de, entre guillemets, PD dans les cours de l'école. Ceux qui font que Mathéo n'osera jamais dire qu'il est élevé et aimé par deux mamans. Ceux qui font qu'Alice veut mourir car on la traite de garçon manqué. Ceux qui créent la haine et la discorde. Oui, l'école est le lieu où l'on permet aux élèves de se demander pourquoi les princesses ne pourraient pas aussi sauver les princes. Eh oui! Les études de genre recouvrent un champ scientifique soutenu par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et le Centre national de la Recherche supérieure, et elles ont des utilités nombreuses dans l'éducation et la lutte contre les discriminations. Ces études et ces travaux existent à l'université depuis longtemps. Nombreuses sont les académies à organiser des journées de formation sur ces thèmes. Nombreuses sont les universités à offrir des cours intégrant le genre, en sociaux, en sciences de l'éduc, en anthropo, en biologie, en sciences économiques, en philosophie, en histoire, en littérature, etc. Des séances de sensibilisation aux questions d'égalité entre les sexes font partie du parcours de formation des enseignants du primaire et du secondaire. En permettant aux élèves de constater la diversité des familles actuelles, en montrant que, selon les lieux et les époques, les rôles des femmes et des hommes ont varié et que l'amour a des formes multiples, les chercheurs, les chercheuses, les enseignants, les enseignantes et les professeurs des écoles offrent aux enfants, citoyennes et citoyens de demain, la liberté de construire un monde plus égalitaire et plus harmonieux. Voilà.
On va s'arrêter là pour ce soir, Angle Mort.
C'est passé vite, en fait.
C'est passé vite.
On avait annoncé beaucoup de musique, ouais. Mais pas du tout. Hein.
Pas du tout, c'était aussi mon article qui était plus long que prévu.
Non, c'était bien.
Merci. C'était très bien aussi, Natacha.
Oh, merci.
On va laisser la place à la causerie. On annonce que, a priori, hein, mais quasi sûr, la semaine prochaine, on n'assurera pas l'émission.
Non, ouais, il y a des défections. Voilà. Donc, ouais, je crois qu'il n'y aura personne de trop disponible la semaine prochaine.
Puis on va se prendre un petit peu de vacances. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne l'émission. Et puis, voilà, bon, on se retrouve après, dans deux semaines. Et on laisse alors avec. Est-ce que c'était la douce de ça que tu voulais mettre?
Aïe, 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 Eric.
Est-ce que c'était quelque chose qui s'appelle Profond?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est un hymne à l'amour.
Allez, c'est parti sur Radio Canu, émission Angle Mort. On laisse la place à la causerie.
Profond, profond jusqu'aux enfers. Nous nous mêlons rivière et mer, fondus comme l'argent et l'or. Je t'adore dedans, dehors. Tu es mon bourreau, ma victime. Nuit de noces, maison de crime. Tu es mon terrible tyran. Petit enfant, nous avons connu des merveilles, des dragons et des nuits de veille. Nous avons connu mille morts et résurrection à l'aurore. Dans ta chair compacte et si bonne, au chaud parfum de cardamone, je me blottis et je frissonne comme un chat trouvé qui ronronne. Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes et pourquoi moi la milliardième. Ce qu'il y a de moi à toi, quel trésor tu peux voir en moi. Nous avons connu des merveilles, des dragons et des nuits de veille. Nous avons connu mille morts et résurrection à l'aurore. Parfois j'oublie jusqu'à ton nom. Tu es un meuble, un bruit de fond. Tu te dresses scintillant, vainqueur comme un soleil levant. Souvent mon cœur pleure et se hait pour tout le mal que je t'ai fait. Puis je deviens sauvage et dur au souvenir de mes tortures. Nous avons connu des merveilles, des dragons et des nuits de veille. Nous avons connu mille morts et résurrection à l'aurore. Quelquefois la fusion exquise d'un frôlement comme une brise est si forte. Je pourrais m'évanouir si je voulais, mais j'aime mieux goûter encore tous les prodiges de ton corps, me noyer dans la griserie qui fait que pour toujours je ris. Ha ha ha.